marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le syndicalisme sous les feux.
Aujourd'hui, le gouvernement assume une vraie politique de droite. Et vos centrales syndicales ne sont plus bonnes qu'à faire griller des saucisses et à vociférer dans le vide. Les temps ont changé, Dumont, et je vous suggère de vous mettre au travail.
Au lendemain de la Libération, la République crée un espace social qu'elle confie aux représentants des salariés et des employeurs. La sécurité sociale est ainsi gérée collectivement, puis c'est le tour des retraites, de l'assurance chômage, de la formation professionnelle. Une vingtaine d'années plus tard, les accords de Grenelle, en 1968, prouvent les vertus de la négociation collective pour la paix sociale. En conséquence, au niveau de l'entreprise, sections et délégations syndicales obtiennent droits et reconnaissances. Nous sommes loin aujourd'hui de ce consensus, si tant est qu'il ait jamais existé. Les syndicats ne réunissent que 8% des salariés, se pose donc la question de leur représentativité. Elle vaut d'ailleurs aussi pour les employeurs. Un dirigeant de start-up se sent-il vraiment concerné par le partage des postes entre CGPME et MEDEF à la caisse primaire d'assurance maladie? Ceux qui veulent se placer sur un plan plus historique se demandent comment un pays aussi étatiste que la France a bien pu donner des responsabilités aussi lourdes à des acteurs notoirement faibles et divisés. Paritarisme et négociation collective, à les entendre, grouilleraient sur une tête d'épingle. Et en conséquence, le gouvernement est de plus en plus tenté d'exercer son droit d'ingérence. Qu'à cet instant de la démonstration, le rapprochement soit fait par les dirigeants politiques entre les syndicats d'aujourd'hui et les corporations d'autrefois n'est pas nécessairement flatteur. À dire le vrai, tous les corps intermédiaires en France se trouvent environnés aujourd'hui du même soupçon. Ils ont tenu à croire leur rôle utile à la démocratie et les voilà renvoyés à un ancien régime dont les liturgies de la négociation relèveraient d'un autre âge.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean Caspar, bonjour.
Bonjour.
Ancien secrétaire général de la CFDT. Je ne veux pas dire que vous relevez d'un autre âge, mais on parlait de votre métier de départ. Vous aviez 14-15 ans en Alsace, vous êtes né à Mulhouse et vous me disiez, mais comment faire sentir l'odeur de la mine aux gens d'aujourd'hui?
Écoutez, je crois qu'il faut qu'on se pose une question toute simple.
Il faut d'abord que vous disiez que vous étiez mineur.
Ça fait mieux. Ben, vous l'avez dit, donc je confirme.
Mineur de potasse.
J'étais mineur de potasse, c'est-à-dire à 16 ans, je suis descendu au fond des mines de potasse à pratiquement 550 mètres sous terre. J'ai exercé un métier d'électromécanicien pendant pratiquement 12 ans. Et donc, je sais ce qu'est la pénibilité du travail, les souffrances au travail. Ce n'est pas en lisant Zola que j'ai découvert ça, je l'ai vécu.
Alors maintenant, on vous entend mieux quand vous dites « il faut que l'on sache ».
Voilà. Donc, il est important qu'on se pose une question qui est toute simple. Est-ce que le niveau de protection des salariés aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité sociale, dans le domaine de l'assurance chômage, dans les questions qui touchent à la formation, serait au niveau où il est aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde, s'il n'y avait pas eu d'organisation syndicale ? Il faut être clair, les organisations syndicales ont contribué à ce que petit à petit se construise un progrès qui permette effectivement aux salariés d'avoir un certain nombre de garanties, car ce n'est pas comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, les patrons qui tout d'un coup ont découvert la nécessité de mettre en place un système de protection sociale, la nécessité de mettre en place un système de protection contre le chômage. Il a fallu des négociations où les patrons, les gouvernements, les syndicats ont pris leur place, et puis il a même fallu des conflits, des tensions, des grèves pour que ces progrès se réalisent. Donc je crois que les organisations syndicales ont été producteurs de progrès économiques, sociaux et culturels indiscutables au cours de son histoire.
Edmond Bert disait bien, voilà, s'il me succède, vous verrez, il citera tout de suite des auteurs chrétiens. Vous l'avez fait, Saint-Paul.
Écoutez, non, chacun est porteur de sa culture. Moi, j'assume complètement cette culture, mais je ne suis pas prisonnier de ma culture. Car si on est prisonnier d'une culture, quelle qu'elle soit, on est sur la pente totalitaire et sur la pente intégriste. Ce que je vomis, il faut accepter que ses convictions, ses croyances puissent être remises en cause par le mouvement de la vie, remises en cause par l'histoire, remises en cause par le progrès des techniques et de la science, et remises en cause par l'intelligence, ma propre intelligence, mais aussi et surtout l'intelligence des autres.
Faire le pari de l'intelligence et de la confiance, c'est la devise de Jean Caspar. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà en 1968, quand, jeune homme, mineur pendant 14 ans, vous étiez devenu secrétaire général de la Fédération mineure de la CFDT. Alors voici un classique, la reprise du travail chez Vondère. Nous sommes au mois de juin, une ouvrière désespérée. Et puis autour d'elle, les militants de la CGT qui essayent de lui expliquer le sens de son retour qu'elle ne veut absolument pas voir.
Je répète, rentrez, reprendre votre travail tranquillement.
C'est ça. Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent. Hein.
C'est pas fini, c'est une étape.
Elle a dit chez Vondère, ça sera plus jamais comme avant.
C'est une victoire, tu entends?
Mais il faut quand même voir, moi je regarde quand même que le patronat, il a été
amené. Ils ont reculé.
Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. Là, ils sont du temps de travail, il a mis.
Ouais, mais pourquoi? Tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer, hein.
Mais non,
bah oui, tiens.
Pas tous les travailleurs.
Ça, c'est ça.
Non, mais il y en a pas mal.
Les
hein.
travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité oui, ça, bien conscients de ce qu'ils ont fait. Bien conscients de ce qu'ils ont fait. Hein.
À une seule condition, c'est qu'il y ait une section syndicale forte. Exactement. Qui veille.
Ils en ont une.
Ils en ont une. Il y a plus de 200 syndicats maintenant. Eh bien, oui, mais c'est là l'important. Mais c'est là l'important maintenant. Avant, il n'y avait rien chez Vondère. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent.
Même pas besoin d'aller aux chiottes, on n'a pas le droit.
La section syndicale qui va faire l'objet d'une loi discutée à l'Assemblée nationale au mois de décembre de la même année 68, Maurice Schumann va être une fois de plus le porte-parole du général.
La parole est à monsieur le ministre d'État, chargé des affaires sociales.
Mesdames et messieurs, sommes-nous ou ne sommes-nous pas capables d'intégrer le syndicalisme dans la vie normale de la société française et dans les institutions permanentes de la République, ce qui n'est pas une façon de lui ravir, mais au contraire la seule façon de lui rendre ou de lui assurer l'indépendance et de l'associer à un ordre nouveau fondé sur la participation, c'est-à-dire en définitive sur la dignité sociale de chacun.
La parole est à monsieur Lebas, rapporteur pour avis de la commission de la production et des échanges.
Votre commission de la production et des échanges enregistre avec satisfaction l'avènement du syndicalisme français à la lumière. Elle espère que ce texte important que nous allons voter contribuera à la disparition de la lutte des classes et à l'avènement de rapports nouveaux entre les hommes, à l'échelon de l'entreprise, à l'échelon du pays. Un nouveau dialogue doit s'ouvrir.
Alors d'autres dans la majorité qui élue en juin 68 n'étaient pas nécessairement à l'image de Maurice Schumann, craignaient l'arrivée des soviets.
Absolument.
Caspar.
Je crois qu'il faut prendre conscience que jusqu'en 1968, le syndicalisme était hors la loi de l'entreprise. Il n'avait aucun pouvoir d'intervention dans l'entreprise. Les tracts devaient être distribués à l'extérieur de l'entreprise. Les cotisations devaient être cotisées à l'extérieur de l'entreprise. Ce n'est qu'à partir de 1968, grâce au mouvement de mai 68, que l'on reconnaît la section syndicale, c'est-à-dire la légitimité du syndicalisme dans l'entreprise. C'est-à-dire la possibilité pour chaque syndicat représentatif de désigner un représentant syndical ayant un pouvoir de négociation. Je rappellerai quand même qu'il a fallu attendre 1981 pour qu'on élargisse ce pouvoir de négociation à d'autres domaines que simplement...
Avec les lois Auroux.
Avec les lois Auroux.
Dans les années qui suivent 1968, la CFDT où vous êtes n'a pas nécessairement la même conception des luttes que la CGT, ou en tout cas, elle veut mener à la fois, j'allais dire en même temps, les luttes et la négociation.
Ben oui, parce que, si vous voulez, c'est toute la question comment on élabore le rapport de force. Alors il y a une conception simpliste, on élabore le rapport de force en montrant ses muscles, en faisant grève, en étant systématiquement dans l'opposition. Mais aussi, on peut aussi créer un rapport de force plus positif en faisant travailler un autre muscle qui est le cerveau. C'est-à-dire par sa capacité de proposition, sa capacité d'innovation, sa capacité de rentrer dans le jeu de la négociation, c'est-à-dire dans une démarche de co-construction des solutions apportées aux problèmes auxquels sont confrontés les salariés. C'est ça la CFDT. Et je crois que c'est son apport fondamental au syndicalisme qui est de dire il ne faut pas opposer lutte et négociation, il faut articuler les deux, mais donner d'abord la priorité à la négociation, la priorité au débat public avec les patrons et le gouvernement.
Cependant, votre prédécesseur Edmond Maire avait un projet politique et FO, dont on va parler maintenant, le troisième syndicat, celui d'André Bergeron, disait « La CFDT, moi je m'en méfie, c'est le syndicat qui veut être un parti. » Quant à la CGT, pour FO, c'était le parti communiste déguisé en syndicat. Alors, la parole, si vous le voulez bien, à André Bergeron, qu'on a présenté comme un meunier du social, parce qu'il parlait tout le temps du grain à moudre qu'il fallait apporter dans les négociations.
Mais le grain à moudre, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire qu'il faut toujours pouvoir discuter de quelque chose. Mais il faut avoir à l'esprit qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, ne peut conduire une politique sans stabilité sociale. Et la pratique conventionnelle permet d'aller vers cette stabilité.
Alors c'est quoi la pratique conventionnelle?
Ça veut dire discuter en permanence dans le cadre des contrats collectifs ou dans le cadre des règles dans des entreprises nationales ou de la fonction publique. Il faut toujours discuter quelque chose. Il m'est arrivé de dire, ça va peut-être un peu vous choquer, de dire à des patrons, ne donnez jamais rien unilatéralement. Il faut que les délégués du personnel, que les militants syndicaux aient le sentiment de servir à quelque chose.
Oui, les propos de Bergeron tenus à Philippe Simonneau, France Culture, sont quand même un peu étonnants.
Non, elles sont, et Bergeron, je l'ai bien connu, à la fois avant je fus secrétaire général et ensuite après, j'ai eu quelques discussions avec lui, il n'avait pas une vision transformatrice des rapports sociaux dans notre pays. Contrairement à ce que vous dites, Edmond Maire n'avait pas une vision politique, une dimension politique de son projet, c'était une vision transformatrice. Transformatrice à la fois des cultures, transformatrice des pratiques sociales, des pratiques politiques, et c'est cela la grande ambition de la CFDT.
Tandis qu'à FO, c'était la négociation comme fin en soi?
C'était un peu la négociation comme fin en soi, mais pour la CFDT, la négociation est le moyen d'arriver à des compromis qui transforment à la fois la réalité, qui transforment le quotidien des salariés, qui améliorent leur situation et qui en même temps conduit à des transformations de comportement dans les pratiques politiques, les pratiques sociales et les pratiques culturelles.
Dans l'histoire du syndicalisme, il y a toujours un syndicat qui veut se poser en interlocuteur privilégié du gouvernement. À cette époque que nous évoquons, les années 70, après 1981, ça sera plus difficile pour Bergeron, qui connaît moins finalement le personnel dirigeant socialiste, c'est FO. Et ça permet aussi peut-être à FO d'assumer la présidence de nombreuses institutions paritaires qui assurent de solides ressources.
Écoutez, là-dessus, je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est j'ai apporté ma contribution comme secrétaire général de la CFDT avec Michel Rocard, à l'époque Premier ministre, dans les années 81, pour faire en sorte que les présidences des organismes paritaires ne soient pas simplement présidées par des gens de Force ouvrière ou du CNPF, donc le MEDEF d'aujourd'hui. Et que nous avons plaidé pour que ces instances paritaires soient présidées par l'ensemble des organisations syndicales, de façon à prendre en compte la réalité du syndicalisme français. Et ce que je voudrais dire, c'est que je crois que la notion d'interlocuteur privilégié a été un fait, c'est vrai, historique, vous avez parfaitement raison, où FO a été considéré un peu comme l'interlocuteur privilégié. Je crois qu'il ne faut pas, de mon point de vue, rentrer dans ce type de rapport. J'ai toujours plaidé, y compris dans mon activité de consultant aujourd'hui, pour qu'une entreprise ne doit pas avoir de relation privilégiée avec tel ou tel syndicat. Parce que si on a une relation privilégiée, naît une espèce de complicité intellectuelle qui fait qu'on oublie les autres organisations syndicales. Et ça, c'est une erreur stratégique tout à fait fondamentale. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai jamais choisi les patrons que j'avais envie d'avoir en face de moi. Je les ai pris tels qu'ils étaient. Et j'ai rencontré des gens formidables et des gens nettement moins formidables, pour ne pas dire autre chose. Et puis pour le patronat, c'est pareil, principe de réalité. Il faut qu'ils acceptent de discuter avec les organisations qu'ils ont, que ce soit la CGT, Force Ouvrière, la CFDT, l'UNSA ou d'autres organisations syndicales, sans vouloir privilégier l'une, en ayant une réflexion stratégique. Quels sont les acteurs qui sont capables de rentrer dans une vision stratégique positive pour faire avancer les choses?
Formidable, étymologiquement, ça veut dire qu'il fait peur, vous savez, Jean Caspar. Un petit pas de côté en Loire-Atlantique. Et nous sommes à Nantes, avec la chanson d'une chambre en ville, le film de 1982, qui a été un peu éclipsé à l'époque, et fort injustement, par l'As des As de Gérard Oury. Et ensuite, on entendra un leader de Nantes.
Dès ce soir, les négociations reprendront. Ceux de Saint-Nazaire se joindront à nous. Il faut tenir bon.
Et la bouffe?
Un comité de soutien est déjà formé.
Si les négociations n'aboutissent pas, nous ferons une marche sur la préfecture, jeudi. Silence, écoutez-moi. La direction a décidé ce matin de licencier les derniers embauchés.
C'est dégueulasse.
Les négociations reprendront dès demain. Il n'est pas question d'accepter le licenciement. Sont mis à pied les camarades dont les noms suivent: Jousse, Fournier, Le Glohanec, Guilbeault, Gicchio, Delacroix, Le Goïc, Delage, Pelot, Memelet, Le Hédé, Bertrand, Jeannin, Le Dantec, Manceau, Le Duc.
Et s'il y a un nom aussi dont il faut se souvenir en Loire-Atlantique, c'est celui du grand leader sédétiste, dont ce serait presque le centenaire cette année, Gilbert de Clerc.
Je crois que un militant syndicaliste, c'est effectivement un homme comme les autres, qui a sa compagne, ses enfants, sa maison, ses loisirs. Je crois beaucoup aux loisirs, c'est très important. Moi, je ne confonds pas les genres, hein. Je ne profite pas des moments les plus intimes avec ma femme pour la convaincre de la réforme fiscale. Ce sont des domaines différents.
Vous aimez la mer, vous avez d'ailleurs trouvé de très beaux accents pour la célébrer.
C'est gentil, ça.
Vous avez célébré aussi la nature, vous êtes aussi jardinier, vous voulez être un homme complet. Vous n'êtes pas très loin, finalement, de François Sérac lorsqu'il est à Belle-Île avec son voilier. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une récate avec le patron des patrons?
Oh, vous savez, alors ça pose pas de problème. Si jamais je reconnaissais Sérac en bateau du côté de Hédic ou de... Je n'aurais qu'une envie, c'est d'essayer d'aller plus vite que lui. Vous savez, il y a une certaine comparaison entre la voile et l'action de classe. Parce que oui, on dit quand on va contre le vent, on dit qu'on navigue au plus près. Et c'est un petit peu comme ça notre lutte de classe. Hein. Le vent arrière, on connaît pas ça souvent. Les,
36.
La bourgeoisie n'est pas prête à pousser au cul du bâtiment. Hein. On va plutôt contre le vent. Hein. Oui.
Comment se fait-il que dans ces années, nous sommes en 1975, lui, vous, d'autres, trouviez des accents qui résonnent encore? Vous pouviez vous présenter, c'était le temps plein du syndicalisme, il y avait davantage d'adhésions depuis 68, comme une force vive qui pouvait renouveler le pays.
D'abord, il faut se rappeler, c'était un moment historique. Et au passage, Gilbert de Clerc est une belle image du syndicalisme de la CFDT, des Pays-Loire, de la période. Et j'ai eu beaucoup d'affection pour lui. Je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui au bureau national de la CFDT.
Ça devait pas être facile tout le temps.
Ah non, c'est pas facile. C'était pas facile tout le temps. Mais vous voyez, en ce qui me concerne, j'ai jamais développé ma démarche dans le cadre de lutte de classe ou pas. Ça me paraissait déjà à l'époque un schéma dépassé. Je considère que dans une société, il y a des intérêts divergents, des intérêts contradictoires, et que nous devons être capables de dépasser, de transcender ces divergences d'intérêts pour réaliser ce que j'appelle tout simplement l'intérêt commun. Et aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de simplement s'opposer, mais de voir si on est capable de faire ensemble et de réussir
ensemble.
J'entends
bien, mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Pourquoi le syndicalisme pouvait-il se présenter comme une force vive? Et pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui? Les adhésions ont baissé à partir du milieu des années 70, même à la CFDT, pendant un moment. Et le syndicalisme recrute dans des secteurs traditionnellement forts, mais qui vont peu à peu s'éroder, dans des classes d'âge plus âgées, et le renouvellement ne se fait plus.
Non, votre remarque est tout à fait pertinente, parce que, et c'est pas vous, je la prendrai franchement, on a quand même changé fondamentalement de période. Pendant très longtemps, le collectif l'emportait sur l'individuel. Se syndiquer, quand je me suis syndiqué, j'avais 17 ans, après la réussite de mon CAP, j'ai trouvé normal de me syndiquer. Je me suis même pas posé de questions. Parce que c'était l'importance accordée au collectif, la nécessité d'avoir une démarche collective, etc. Or, ça ne vous a pas échappé qu'un des renversements culturels aujourd'hui, c'est effectivement une place de plus en plus grande à l'individualisation. C'est-à-dire au fait que on est devant le fait que les salariés, que la population, veut être reconnue. Hein, Pascal disait, je suis un point que l'espace engloutit,
attention,
un point unique.
Aux références trop chrétiennes, Jean Caspar.
Mais il y a quand même
une responsabilité des syndicalistes. Eux-mêmes, ils veulent être reconnus comme membres d'un appareil, comme syndicalistes permanents. Et le premier cercle grossit alors que le cercle des adhérents se réduit.
Non, mais alors c'est intéressant de savoir pourquoi le cercle des adhérents se rétrécit. Premièrement, il se rétrécit parce que, encore dans de nombreuses entreprises, accepter d'être représentant du personnel, d'être un élu dans une instance représentative du personnel, ça ne provoque pas spontanément les félicitations de la hiérarchie et les félicitations de la direction. Premier point. Deuxième point, il est vrai que le syndicalisme n'a pas suffisamment adapté à la fois son langage, sa stratégie et ses objectifs à la transformation du salarié. Qu'est-ce que vous voulez quand on regarde aujourd'hui que la majorité des salariés sont dans des petites et très petites entreprises. Et quand vous expliquez que le patron est un exploiteur, les salariés de ces petites entreprises vous regardent les yeux grands ouverts. Parce que dans une grande entreprise, les salariés ne connaissent pas le patron. Ils connaissent son nom, ils connaissent sa photo parce que dans la presse, parce que dans le journal d'entreprise, mais n'ont aucun contact avec lui. Dans la petite et très petite entreprise, non seulement les salariés voient le patron tous les jours, non seulement il le voit bosser, non seulement il le voit confronté aux pressions des clients qui viennent rouspéter parce que, etc., ou le voit confronté aux banquiers qui viennent l'embêter parce que, etc. Donc on voit bien que le rapport des salariés à leur chef d'entreprise est complètement modifié. Et le syndicalisme n'a pas suffisamment intégré cette réalité-là des transformations culturelles des salariés.
Moins d'adhérents implique qu'il faut faire confiance pour le financement à d'autres sources. Les prélèvements sur les structures paritaires, les contributions forcées des entreprises, dit-on dans les milieux patronaux.
Oui, il y en a même un délégué général de l'UMM qui un jour a dit qu'il y avait une caisse noire qui servait à fluidifier le dialogue social.
Oui.
Ce qui est profondément scandaleux, parce que si effectivement il y a une caisse noire qui permet de fluidifier le dialogue social, il faut dire qui en bénéficie, comment elle est alimentée et comment elle est distribuée. Or, ce manque de courage me paraît scandaleux, ce qui fait que ça a conduit à ce que tout le monde pense que les salariés, les syndicats profitent. Non, je peux vous dire que pour ce qui concerne la CFDT, là je parle avec un décalage très important, nous avions deux budgets. Un budget normal pour le fonctionnement des structures syndicales qui reposait uniquement sur la cotisation des adhérents, et nous avions un budget extraordinaire où nous prenions en compte les subventions que l'on touchait dans un certain nombre d'organismes pour être au service des salariés, des représentants de la CFDT qui étaient dans ces organismes. Conseil de prud'homme, caisse d'allocation familiale, caisse de retraite, etc. Donc cette légende qui fait que le syndicalisme est alimenté uniquement par les subventions est faux. Et d'autre part, il faut quand même se poser une vraie question. Est-ce que oui ou non le syndicalisme remplit une fonction d'intérêt général? Bien évidemment qu'il remplit une fonction d'intérêt général.
Il la remplirait mieux s'il était moins divisé. Un syndicalisme affaibli s'ajoute la difficulté créée par un syndicalisme divisé. Alors vous-même, vous aviez pris votre parti de laisser la CGT de son côté quand en 1989 vous proposiez à vos camarades que vous appeliez par leur prénom, mais les camarades de FO, de la CGC, un pôle réformateur, puisque de la CGT, il n'y avait rien à attendre. Mais si, il y a eu des moments où vous vous êtes vu dans une position qui intéressait la CGT. Il y a eu un moment après où la coopération était possible.
Attendez, il faut pas confondre, il y a deux problèmes. Il y a la capacité des organisations syndicales à agir ensemble, à se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs et à essayer ensemble d'atteindre ces objectifs. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et nous le faisions avec la CGT, avec d'autres organisations syndicales. C'est ce qu'on appelle la recherche de convergence dans l'action concrète pour atteindre des objectifs. Et puis, il y a autre chose. Deuxième problème, qui est ce que j'appelle la reconstruction du syndicalisme français. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même un peu élargir ses horizons. Nous sommes dans un pays où nous avons 7 confédérations. 7. Aucun pays européen n'a 7 confédérations. En Allemagne, vous avez une grande organisation, le DGB. En Italie, vous avez 3 confédérations. En Espagne, 2 confédérations. En Belgique, 2 confédérations, etc. Nous, on en a 7. Et je pense qu'un des enjeux de l'avenir, c'est d'essayer de tenter ce que j'appelle la reconstruction du syndicalisme français. Et c'était la démarche que j'avais engagée en 1989.
Et qu'a failli rejoindre peut-être Bernard Thibault un peu plus tard, mais vous n'étiez plus là. Juste un mot, parce que dans un livre, Naguère, qui s'intitulait d'ailleurs « Refonder le syndicalisme », vous proposiez des aménagements de la grève. Alors ça, c'est une question, l'aménagement de la grève, que Emmanuel Macron n'a pas pu beaucoup aborder hier, mais qui intéresse les Français.
Ben oui, je pensais que par exemple, on pouvait dans les transports trouver des modalités où on fait grève, où on ne fait pas grève, pardon, au début de la journée pour permettre à ceux qui vont travailler d'aller à leur travail, et ensuite on fait grève pendant la journée, et ensuite à partir d'un certain horaire, 16h ou 17h, on reprend le travail pour permettre aux gens qui ne font pas grève et qui ne sont pas de ce secteur de rentrer chez eux. Voilà, je pense que, vous savez, c'est vrai pour toute chose, le monde évolue. Les cultures évoluent, les comportements évoluent. Il faut donc que les modalités d'action puissent également évoluer.
Tenez, à France Inter, mercredi, une soirée avec la nouvelle génération de la radio autour de la mémoire de Pierre Desproges. Écoutez-le parler de la grève et de la grève dans un secteur qui nous concerne, c'est le nôtre.
Wah, 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 wah.
Les syndicats et les personnels de l'audiovisuel, justement inquiets de l'avenir du service public, annoncent une grève des professionnels de la radio et de la télévision pour le 21 mai prochain, dernier délai. J'opine. Mais je demande, pourquoi ce dernier délai? Eh bien tout simplement parce que, après cette date, commencent sur les antennes les retransmissions du tournoi de tennis de Roland-Garros et la Coupe du Monde de football de Mexico. Et qu'il n'est pas question, dans l'esprit des dirigeants syndicaux comme dans celui des militants de base, de perturber un tant soit peu ces événements sportifs éminemment passionnants. En revanche, si la grève a lieu avant le début tant attendu de ces parties de babale, on ne punira que ces demeurés globaux-là, qui s'intéressent essentiellement aux créations, aux films, à la musique, aux débats, aux grands reportages ou à l'information. Les goûts et les couleurs de ceux-là, de ces fêlés qui fonctionnent plus du neurone cérébral que de la fibre musculaire, ne préoccupe guère les leaders courroucés des mouvements ouvriers. Que réclament les personnels de l'audiovisuel concernés, pour ne pas dire cernés par les cons? Ils s'insurgent, et j'en suis, à mon humble niveau de pitre son et lumière, contre le démantèlement du service public et son inévitable corollaire, l'extension anarchique du privé par le biais de marchands de son et d'images peu scrupuleux et beaucoup plus préoccupés de faire grimper les taux d'écoute que de se risquer dans des programmes de qualité. Or, je vous le donne en 100, 40 000, c'est trop cher. Qu'est-ce qui fait grimper les taux d'écoute chez les masses popos, les masses popus, les masses populaires? Le tennis et le foot. Donc, Dieu me shoote, si possible, pas dans la gueule, ça décoiffe. La présente grève destinée à préserver la qualité au mépris du taux d'écoute aura lieu le 21 mai pour préserver les taux d'écoute au mépris de la qualité.
Voilà, soirée Pierre Desproges, mercredi à 20h sur l'antenne. Juste une formule sur le droit de grève, Jean Caspar.
Ben je pense qu'il ne faut pas sacraliser le droit de grève, ni le diaboliser, parce que le droit de grève est un droit constitutionnel dans notre pays.
À l'époque où vous étiez secrétaire général de la CFDT, la devise de France Inter et de tout Radio France, c'était « Écoutez la différence ». Alors votre devise maintenant, c'est « Si tu veux aller vite ».
Oui, si tu veux aller vite, fais-le seul. Si tu veux aller loin, faisons-le ensemble.
Vous auriez eu quelque chose à dire, sans doute, sur les propos d'Emmanuel Macron à ce sujet.
Oui.
Oui, mais nous sommes dans une émission d'histoire, vous savez, Jean Caspar. Et puis, il faut que je passe le relais à Mathieu Vidard, sans avoir remercié Franck Olivard qui l'a préparé, Loïc Frapsos à la technique et Sonia Le Glen à la réalisation. Mathieu Vidard.
Oui, Jean, dans un instant, nous irons à la vitesse de la lumière pour parler des ondes gravitationnelles avec mes invités. C'est le thème de notre dossier dans un instant dans la tête au carré.
Et alors, le sous-titre est la relativité générale depuis Einstein, il faut quand même le dire. Il est 14h, vous écoutez France Inter.